Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien branchés sur les ondes de la radio Nzamba Gateka Kawe. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous du journal de ce mercredi 22 juin 2022. Soyez tous les bienvenus. Voici d'abord les principaux titres de cette édition. Une nouvelle victime d'abus policiers dans la ville de Bujumbura. Il s'agit d'un homme froidement abattu ce matin par un agent de police après un bref moment de malentendu. Le policier auteur de ce crime a vite été interpellé. Les défenseurs des droits de l'homme burundais réclament la rigueur de la loi dans ce dossier. Une femme et sa fille de 17 ans vivent en clandestinité dans la province de Lutana. Elles fuient leur bourreau, Sylvain Nzikoruriho, le secrétaire provincial du parti au pouvoir, CNDD-FDD à Lutana, auteur présumé de viol contre cette adolescente de 17 ans. Selon les sources sur place, le dossier n'avance pas dans le parquet provincial de Lutana suite à l'influence de cet homme politique. Le parti SNL fait profil bas. Ces 31 députés vont regagner leur siège à l'hémicycle de Kigobe tout en continuant de réclamer leur droit de former le groupe parlementaire lui reconnu par la Constitution, selon le chef de ce parti, Agathon Rwasa. Pour lui, le plan est de les retirer leur droit d'être représentés dans l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Vous le suivrez dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Un homme a été fusillé par un policier dans la matinée de ce mercredi dans la ville de Bujumbura, au boulevard de Luprona, en face du supermarché T2000. La victime attendait de s'approvisionner en carburant à la station-service se trouvant tout près de la microfinance Hodge Family Microfinance. Le policier qui assure la garde de cet endroit l'a intimé l'ordre de quitter son emplacement parce qu'il accusait de barricader l'entrée de la dite microfinance alors qu'il était dans une file d'attente. Après un bref malentendu, le policier l'a froidement abattu. Il a par la suite été appréhendé pour des raisons d'enquête. De l'avis d'un juriste, la loi doit être appliquée dans sa rigueur car ce policier a commis un double crime, explique Maître Janvier Wigilimana, défenseur aussi des droits de l'homme. Selon lui, l'État doit indemniser la famille car il a une part de responsabilité. On l'écoute.
L'acte commis par le policier est un crime doublement grave car, d'une part, il a porté atteinte à la vie d'un citoyen, mais d'autre part, il s'agit d'un acte qui a été commis par un agent public qui est investi d'une mission de protection de la population dont faisait partie la victime. Et pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il s'agit d'un crime qui est entouré de circonstances aggravantes, d'où il devrait être sanctionné de manière exemplaire par la justice pour qu'on puisse éventuellement dissuader d'autres comportements similaires parce que le crime qui vient d'être commis par la police n'est pas un crime isolé. Nous savons que cette police devient de plus en plus criminelle et que d'autres actes similaires ont été commis et repassés par des policiers, des fois dans une impunité absolue. Ceci montre également que notre police continue à manquer de l'essentiel, notamment le professionnalisme, la discipline et le respect de la vie humaine. L'État, donc, dans de telles circonstances, lorsque ces agents sont impliqués dans des crimes aussi graves, nous pensons qu'il est civilement responsable selon la loi, raison pour laquelle il devrait indemniser la famille de la victime, mais aussi, comme ce crime est loin d'être isolé, nous pensons que le gouvernement a la responsabilité de prendre des mesures à la hauteur des défis actuels pour que la police nationale soit professionnelle et qu'elle soit investie des capacités, des compétences ainsi qu'une discipline qui lui permettrait plutôt d'accomplir correctement la mission qui est de protéger la population, qui est de rendre la population tranquille plutôt que de faire l'inverse. Nous demandons également aux autorités judiciaires de faire correctement leur travail. Nous savons que lorsque des policiers ou d'autres agents de sécurité sont impliquées dans des crimes. Des fois, ils y reçoivent des ordres venant de certaines autorités qui sont pour l'impunité.
Et en droit de l'homme, une femme et sa fille de 17 ans sont en cavale depuis plus d'une semaine de peur de subir un règlement de compte par Sylvain Nzikoruliho, le secrétaire provincial du parti au pouvoir CNDD-FDD à Rutana. Cette famille réclame justice pour cette adolescente victime de viol dont cet homme politique au pouvoir en est auteur présumé selon nos sources à Rutana. Le dossier est en cours d'instruction au parquet provincial, mais Sylvain Nzikoruliho use de son influence pour étouffer cette affaire en justice. On fait le point avec Pierre Garungu.
Selon les habitants de la colline Kavingo, en commune Giharu de la province Rutana, Spes Ndabachekure et sa fille de 17 ans sont persécutées par le secrétaire provincial du CNDD-FDD à Rutana, Sylvain Nzikoruliho. Elles ont été obligées de quitter leur ménage depuis deux semaines de peur d'être tuées. Les mêmes sources indiquent qu'un dossier de viol contre Sylvain Nzikoruliho à l'endroit de la jeune fille est pendant au parquet de Rutana. L'adolescente et sa mère, Spes Ndabachekure, devraient être entendues au parquet de Rutana jeudi dernier, 16 juin, dans ce dossier de viol en cours d'instruction contre le secrétaire provincial du CNDD-FDD à Rutana, Sylvain Nzikoruliho. Un proche raconte qu'avant le rendez-vous fixé sur la convocation, la victime et sa mère ont été appelées par téléphone par un inconnu qui leur a demandé de se rendre au chef-lieu de la province Rutana pour le même dossier. Des sources à Giharo indiquent que la personne qui les a appelées était un des Imbonerakure, mandaté par le présumé violeur Sylvain Nzikoruliho. Les mêmes sources révèlent que Nzikoruliho voulait les faire kidnapper pour effacer toute trace de ce dossier. Des Imbonerakure auraient informé la maman et sa fille que Sylvain Nzikoruliho les attendait à Ogiga pour les arrêter, poursuivent les mêmes sources. La fille est parvenue à s'échapper alors que sa maman, Spes Ndabachekure, a été interpellée par des Imbonerakure, puis détenue au cachot du commissariat communal Geharo pendant une nuit, avant d'être relâchée le lendemain. Son téléphone est toujours gardé par un officier de police judiciaire de la localité. Cette mère et sa fille sont dès lors en cavale par peur d'être tuées, confirme une source au sein de leur famille. Des proches de cette famille exigent qu'elle soit protégée. Le cas de cette famille ne serait pas un cas isolé dans la province Rutana et surtout en commune Giharo. Début octobre 2021, le ministre burundais en charge des affaires intérieures a décidé la suspension de tous les administratifs en situation d'union illégale et ou de concubinage. Une mesure qui divise les militants du CNDD-FDD en province Rutana. À titre illustratif, en commune de Giharo, il y a deux blocs. Celui qui soutient la décision du ministre Gervais Ndirakurucha et un autre qui ne veut pas entendre parler de cette mesure. À la rédaction de la radio Inzamba à Gateka Kawe, nous avons tenté de joindre par téléphone Sylvain Nzikoruliho, le secrétaire provincial du parti au pouvoir CNDD-FDD dans la province Rutana, pour avoir sa version des faits sur toutes les accusations de cette famille en cavale, mais sans succès.
Inzamba.
Suite de cette édition en page économie, la nouvelle loi budgétaire prévoit plus de 2100 milliards de francs burundais. Ce budget, par rapport à celui de l'année dernière, a connu une augmentation de 40%. Parmi les secteurs prioritaires figure celui de l'agriculture et l'élevage, le secteur de la défense et sécurité, sans oublier la santé et l'éducation. Les détails avec Jean-Marie Ndabashinze.
La nouvelle loi budgétaire exercice 2020-2023 est estimée à plus de 2193 milliards de francs burundais. Ce budget est passé de 1562 milliards en 2022, soit une augmentation de 40%. Pour mobiliser ces fonds, le gouvernement a initié de nouvelles taxes fiscales. C'est notamment l'imposition des taxes au niveau des cabinets d'avocats et notaires, la hausse de l'immatriculation des véhicules, la suppression des exonérations des organisations sans but lucratif. Parmi les priorités du gouvernement pour l'année 2023 figure le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage qui a vu son budget augmenter de 80 milliards de francs burundais. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, qui a présenté ce projet de loi, a fait savoir que le secteur de défense et de sécurité sera aussi valorisé. 65 milliards sera injecté dans la force de défense, tandis que 32 milliards sera mis au ministère de la sécurité. Ce budget prévoit aussi 300 milliards qui seront affectés dans le domaine de la construction des infrastructures routières. Ce budget compte aussi à revaloriser l'agence de régulation et de contrôle de la télécommunication ARCT pour bien contrôler les opérateurs dans le domaine des TIC. Ce budget de l'État acquis en déficit de plus de 200 milliards de francs burundais, a souligné le ministre des Finances.
Merci Jean-Marie Ndabashinze, politique à présent. Le refus aux députés du parti SNL de former un groupe parlementaire par le président de l'Assemblée nationale aurait une tendance de vouloir écarter ce parti des institutions de la région, surtout la représentation dans l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. C'est la lecture d'Agathon Gwasa, mais en cas de refus catégorique, le président du parti SNL rassure que les députés du SNL continueront de siéger tout en réclamant leurs droits. Suivez-le.
Si on regarde la loi, il n'y a aucun mobile qui puisse justifier cette attitude de M. le président de l'Assemblée nationale. Toutefois, les enjeux politiques dans cette nation sont multiples. Certaines langues laissent entendre qu'on ne voudrait pas que le SNL soit dans les institutions régionales ou dans d'autres. Vous savez, la discrimination est de mise, bien sûr. Et cependant, pour ce qui est de l'Eyala, par exemple, le traité dispose que les députés proviennent des partis qui siègent à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont pas membres d'un exercice. Et donc, si pour eux, il faut nous refuser notre participation, par exemple, à l'Eyala, vous comprenez que si on refuse la base, on refuse même le reste. La première chose, c'est d'abord nous accepter. Nous sommes bel et bien un groupe parlementaire, de par la Constitution et de par même le règlement intérieur, parce que ce que nous avons fait, la déclaration formelle, les conditions de multiethnicité, tout ça, nous le remplissons. Et donc, j'en appelle plutôt à la sagesse de Monsieur l'honorable président de l'Assemblée nationale. On ne gagne rien à créer des problèmes là où ils ne sont pas. À cette Assemblée nationale du Burundi, qui ne sait pas qu'il y a des députés ici du parti CNDD-FDD et des députés du parti CNR? Et s'il accepte qu'il y a un groupe parlementaire du CNDD-FDD, d'où vient-il qu'il refuse que le parti CNR, ses députés, puissent se constituer eux aussi un groupe parlementaire? Le deux poids deux mesures, ça ne peut nullement faire avancer cette nation. N'en déplaise, s'il se complaît dans ce mutisme-là, de nous opposer en silence à toute doléance, eh bien, nous autres, nous sommes des députés, nous sommes partis du peuple et nous sommes mandatés par le peuple. Nous exercerons le mandat que le peuple nous a confié. Toutefois, nous continuerons à réclamer nos droits.
Les députés du parti Congrès national pour la liberté SNL ont raison de réclamer la formation de leur groupe parlementaire parce qu'ils remplissent toutes les conditions. Professeur Charles Nditije, ancien président et en même temps président du parti Uprona de l'opposition, dénonce la violation de la loi qui ne cesse de s'observer au sein de l'Assemblée nationale. Cela est dû à ce qu'il qualifie d'arrogance de la part de l'actuel président de cette institution qui ne tolère pas les membres des partis politiques outre que le sien, selon toujours Charles Nditije. On l'écoute.
C'est inacceptable, c'est impensable, ça ne s'explique pas qu'on leur refuse ce droit absolu et inaliénable. Et malheureusement, au sein du parti CNDD-FDD, c'est la loi du plus fort qui règne. Ils ont refusé carrément la démocratie, le multipartisme. Ils refusent le débat contradictoire. Ils veulent une pensée monolithique et violent allègrement la Constitution et les lois du Burundi. Et ce n'est d'ailleurs pas surprenant parce que le CNDD-FDD se prend non seulement comme un parti unique, mais comme le parti qui fait la pluie et le beau temps. Et bien vous, le secrétaire général du CNDD-FDD a dit que le parti CNDD-FDD n'est pas un parti qui se confond avec tout le pays, avec tout le Burundi, avec le Burundi. C'est une arrogance, une insolence vis-à-vis du peuple burundais. Et je pense que Wassa a tout intérêt à agir avec fermeté en refusant qu'on lui combat les droits que lui confère la Constitution et le règlement de l'intérieur. Mais normalement, le président de l'Assemblée nationale devrait être le premier à faire respecter la Constitution, à faire respecter les lois, parce que ça fait partie des missions principales de l'Assemblée nationale et il devrait donc être le premier, donner le modèle, donner l'exemple dans le respect de la Constitution de l'intérieur et de l'Assemblée nationale. Et bien plus, il devrait normalement se mettre à l'écoute non seulement des députés, mais également du peuple burundais dans son entièreté et dans toute sa diversité. Ce n'est pas normal qu'un groupe de 30 députés, ici d'un parti, qui participe dans les institutions, n'ait pas le droit et demande désespérément d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale, celui-ci leur oppose une fait de non-recevoir, c'est de l'insolence, C'est de l'arrogance qui est inacceptable, qui n'est pas digne d'un président de l'Assemblée nationale, mais qui est fortement condamnable et qu'il faut décrier partout.
Et dernier dossier de ce journal, les réfugiés burundais du camp d'Ndouta en République unie de Tanzanie sont concernés par le refus de leur droit d'expression par l'autorité tanzanienne. Ce lundi 20 juin, alors que le monde entier célébrait la journée internationale dédiée aux réfugiés, le discours qu'ils avaient préparé a été censuré par ces autorités. Parmi les revendications figurait le respect des droits des réfugiés. Plus de détails avec Trifine Kaniwabu.
À leur grande surprise, le discours que ces réfugiés avaient préparé à l'occasion de cette journée internationale pour les réfugiés a été censuré par les autorités tanzaniennes. Ces autorités leur ont exigé de retirer des idées maîtresses du discours, lesquelles idées revendiquaient le respect des droits des réfugiés. Il s'agit notamment de la demande de délocalisation loin de la frontière et si possible, leur chercher un autre pays d'asile. Le respect des droits des prisonniers était également à évoquer lors du discours. Écoutez un des représentants de ces réfugiés.
Premièrement, nous avions demandé que le rapatriement de ceux qui le veulent soit bien organisé. Et pour ceux qui ne le veulent pas, qu'on nous cherche un autre pays. Autre chose qu'on a à lever, c'est que nous avions demandé que les prisonniers soient bien traités. En plus de tout cela, il faut que les étudiants obtiennent à temps le matériel nécessaire. Nous avions aussi signalé les mauvaises conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Une autre inquiétude que nous avions soulevée, c'est qu'on nous a donné une dérogation d'une année pour avoir quitté. Nous doutons de notre sort après cette dérogation. Toutes ces préoccupations n'ont pas été considérées.
Vu les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent, ils demandent la délocalisation vers un autre pays.
Ce que nous demandons, c'est que ceux qui n'ont pas encore décidé de se rapatrier soit délocalisé et installé loin de la frontière, ou alors qu'on nous cherche un troisième pays d'asile.
Vous saurez que le camp de Ndouta est situé au nord-ouest de la Tanzanie et a abrité en 2019 plus de 70 000 réfugiés burundais. Certains de ces réfugiés avaient été rapatriés de leur gré, d'autres par force. Durant ces deux dernières années, le constat est que bon nombre de ces réfugiés ont repris le chemin de l'exil. Il y en a qui n'ont pas été accueillis dans les camps et ont préféré d'aller s'installer dans les forêts tanzaniennes.
Merci Trifili Kaniwabo et c'est par ici que prend fin cette édition. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. Josephine Jones-Mundimana, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver encore dans nos prochaines éditions. Prenez soin de vous. Au revoir.